il y a au moins des bonnes habitudes. Mais enfin, franchement, il n'y a pas des choses à demander. L'Église, elle n'a rien à demander à son Dieu. Alors, voilà, réunion de prière. Alors, je vais vous dire une chose. Est-ce que quand vous allez à la réunion de prière, et effectivement, je m'adresse peut-être plus aux frères, là, est-ce que vous la préparez? Ou est-ce que vous arrivez à la réunion de prière, au fait, ouais, ça y est, on est là, qu'est-ce que je vais pouvoir demander quand même? Là, ouais, puis, au vite, on trouve une petite prière à faire. En tout cas, ceux qui parlent plus facilement, ben, ils ont toujours une petite affaire. Non, est-ce qu'on a préparé, c'est-à-dire toute la semaine, est-ce qu'on est vraiment dans cet esprit de prière pour... il y a tellement de besoins. Tellement de besoins. Mais pas seulement pour ces besoins dont tu viens de nous parler, Pierre-Henri, mais pour l'église locale. Tant de besoins. Est-ce que nous avons préparé ça? Est-ce que nous nous faisons une petite fiche, peut-être pour ceux qui n'ont pas trop de mémoire, et puis pour pouvoir dire, voilà, au Seigneur, en église, parce que vraiment, il répond, notre Dieu, parce que c'est une promesse, il répond. Alors est-ce que nous préparons cela, vraiment, pour la réunion de prière? Il n'y aura pas trop de silence, vous savez. Et ce sera trop court, une réunion de prière. Et puis, il y a des occasions pour prier. Des cellules de prière, voilà, des frères et des sœurs qui se retrouvent pour prier, pour un besoin spécial, pour jeûner peut-être, et pour demander, supplier au Seigneur. Vraiment, fais cela pour ta gloire, pour la gloire de ton nom. Troisième défi. Oui, pourquoi des défis? Parce que on peut se lasser, non? Ça vous arrive pas? Troisième, c'est construire, édifier. Et ça, c'est important, parce que c'est pour devenir grand, pour la croissance. Alors, j'ai marqué une auberge pour recevoir de la nourriture spirituelle et une école pour apprendre. Mais tout ça, c'est lié, vous comprenez bien, mais c'est un peu didactique. Alors, recevoir de la nourriture. Donc peut-être que vous vous souvenez des versets de la Bible dans Éphésiens 4. Il est parlé de dons spirituels, de compétences qui ont été données à l'Église. Pour quel but? Pour la croissance, il est dit là que c'est pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, c'est-à-dire pour entrer dans le ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Voilà la nécessité d'apporter de la nourriture. Mais qui est-ce qui donne cette nourriture? Si j'ai parlé d'auberge, c'est l'aubergiste. Mais qui est l'aubergiste? Est-ce qu'il y a des spécialistes? Ah, peut-être qu'il y a des différences entre les personnes, mais n'empêche qu'à un moment donné, nous sommes un aubergiste. Nous avons de la nourriture spirituelle à donner. Si nous avons reçu, nous donnons ce que nous avons reçu pour le bien, pour la croissance de l'autre. Alors, c'est tellement nécessaire de se souvenir, rappelons-nous qu'à chacun a été donné par l'Esprit un don de l'Esprit, pour l'utilité, pour que ce soit utile. Alors comment pouvoir apporter, donner? Eh bien d'abord, il faut se préparer. Se préparer chaque jour. Alors, si dans les réunions d'édification de l'Église, c'est l'affaire des frères, puisqu'il est dit que vos femmes se taisent dans l'Église en rapport avec l'enseignement, mais le reste du temps, eh bien, les frères et les sœurs ont cette responsabilité d'apporter de la nourriture qui vient de Dieu pour la croissance. Alors, nous sommes d'abord appelés, comme dit Paul aux Corinthiens dans le chapitre 14, il est dit, désirez avec ardeur des dons de l'esprit, cherchez à en être abondamment doués pour l'édification, la croissance de l'Église. Voilà, ça c'est important, chercher. Et pas seulement chercher en disant, Seigneur, permets qu'il y ait des dons de l'esprit qui enseignent. Mais ça veut dire aussi, Seigneur, fais que moi je suis disposé à t'offrir ma vie pour pouvoir être quelqu'un qui apporte de l'enseignement, de la nourriture spirituelle. Donc, l'important, c'est de devenir soi-même riche, riche de la personne du Seigneur Jésus, riche parce que la parole de Dieu habite en moi richement. Et à ce moment-là, je pourrais donner quelque chose. Alors, il est dit aussi de s'appliquer à l'enseignement. Il est donc important d'agir. Et c'est ce qu'on voit dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 14. Agir, ça veut dire que si quelqu'un a reçu une parole, une révélation, un psaume, qu'est-ce qu'il fait? Il le garde pour lui parce qu'il dit, je suis un petit frère, je suis une petite sœur, moi ce que je vais dire, ça va. Mais non, mais on est simplement le serviteur du maître et nous apportons ce que nous avons reçu. S'il vous plaît, faites ça. Autrement, vous allez devenir un petit peu comme des obèses. Vous allez manger, manger, jamais redonner. Vous allez exploser un jour. D'orgueil, et je sais, mais oui, vous n'avez jamais donné. Que la nourriture, ce que vous allez donner, soit centré sur Christ Et ça, c'est essentiel, parce que ça amène l'adoration. Sinon, c'est de la technique biblique. Non, centré sur Christ, quelque chose de concret, quelque chose qui va permettre d'être intégré dans ma vie. Si on vous a dit quelque chose cet après-midi, mais en sortant d'ici, mais que ce soit à mettre en route tout de suite. Ensuite, compréhensible, avec un langage simple. Certains ont cru que plus c'était difficile à comprendre, plus c'était spirituel. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Compréhensible, des mots simples. Et veillez à ce que, à la fois, la tête et le cœur soient mis en mouvement ensemble. Et puis, faire de sorte qu'il y ait un rassemblement de personnes. Vous savez, quand vous parlez devant des bancs vides, ça sert pas à grand-chose. Alors encouragez vos enfants, encouragez vos frères et sœurs, vos amis, à venir aux réunions d'édification. C'est important. Aux études bibliques, c'est important. Évidemment, si ce qu'on vous donne n'est pas édifiant, restez à la maison. Mais alors, prions s'il y a un problème. Tiens, sujet de prière. Priez pour qu'il y ait de l'édification dans l'église. Tiens, j'en ai trouvé un. Ben voilà, pour votre prochaine réunion de prière. Alors, ensuite, une école. Une école pour apprendre la doctrine. Parce qu'il faut aussi apprendre. Apprendre l'enseignement. C'est vrai. Mais n'empêche, remarquez que toutes les épîtres d'enseignement, particuliers, Éphésiens, Colossiens, etc., vers qui cela nous amène? Vers le Christ et vers l'adoration. Vous savez, c'est très important de toujours chercher le Seigneur. Voilà, je vais vous dire, quand on vous parle des évangiles, c'est facile de trouver le Seigneur Jésus. Mais maintenant, on va dire, maintenant, dites-moi quelques mots sur l'épître aux Romains. Ah, facile. Justification, sanctification, consécration. Oui? Et alors? Où est le Seigneur Jésus là-dedans? Cherchez-le. Vous le trouverez, n'empêche. Quand vous l'aurez trouvé, vous verrez que, effectivement, justification, sanctification et consécration, ça va s'animer dans votre vie. L'épître aux Corinthiens, pareil. Ah oui, je sais. C'est l'ordre dans l'Église. Oui? Et le Seigneur Jésus, il est où là-dedans? Alors, c'est ça qui est important. Que l'enseignement puisse être vraiment qui amène vers Christ, parce que ça amène l'adoration. Et à ce moment-là, ça, c'est le moteur de la vie, parce qu'il y a l'amour là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, dans l'Église, c'est un défi. Ben, on apprend aussi pas mal de choses, comme la patience, le support, l'humilité, voilà, le dévouement, se mettre au service des autres. Alors, dans la pratique, réunion d'édification, des entretiens. Alors, les entretiens, vous pouvez le faire de la forme que vous voulez. Mais en tout cas, c'est important que tout le monde puisse vraiment y trouver son compte, pouvoir aussi participer, sans doute. Et puis, il y a ces cellules de vie, ces rencontres. Il y a beaucoup de jeunes qui, justement, se retrouvent pour étudier et lire la parole de Dieu. Mais que Dieu vous bénisse et continuez. Surtout continuez. Ensuite, n'oubliez pas d'inviter des docteurs, si ça existe encore. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup. Mais des docteurs qui savent expliquer clairement la parole de Dieu. Invitez-les et vous verrez, ça sera de la nourriture spirituelle qui vous fera du bien. Alors, ensuite, oui, parce qu'il faut progresser, il faut grandir. On est dans un monde, justement, qui nous prend beaucoup. Et si on n'est pas nourri de la personne du Seigneur Jésus, vraiment, si on n'a pas cette vie vraiment en nous, eh bien, on va se laisser entraîner. Vous savez, ça va très, très, très vite. Cinquièmement, on a soigné. Prendre soin. Alors, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais quand même, vraiment. L'église locale, une maison de famille. Est-ce qu'il y a là vraiment la fraternité? Est-ce qu'il y a l'amour qui découle, qui vient de l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie à chacun? Est-ce que vraiment il y a cela? Peut-être que vous pensez, ben, c'est bien beau ce qu'il nous raconte là, mais dans mon église, il n'y a pas d'amour. Non, il n'y a pas d'amour, franchement, pff, là, les frères, les sœurs. Mais est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que j'apporte beaucoup d'amour, moi, à mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes vraiment posé cette question? Je crois que ça change un petit peu la donne, et je vous encourage à vous la poser. En tout cas, et je redis, ce que Pierre-Henri a dit, c'est que l'amour manifesté, c'est vraiment le ciment entre les différentes pierres de l'édifice. Ça, on peut le redire. Et puis, on peut se le redire. Justement, manifester de l'amour à mes frères et sœurs, ça veut dire que je les accepte tels qu'ils sont. Je les aime pas parce qu'ils vont devenir ce que j'attends qu'ils soient, mais je les aime parce que ce sont mes frères et mes sœurs. Et là, j'ai besoin d'eux. Tel qu'il est, telle qu'elle est, j'ai besoin d'elle. Je ne peux pas grandir, moi, sans elle, sans lui. Et réciproquement, vous ne pouvez pas grandir sans moi. Je dis pas ça du tout, et comme ça, mais franchement, réfléchissez à cela. Nous avons besoin les uns des autres. Et ça nous amène à quoi? À nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors c'est vrai que c'est bien important. Un refuge. Un refuge. Alors pour trouver quoi? Dans un refuge, qu'est-ce qu'on trouve? Quand tout s'agite autour, on trouve la paix, on trouve la protection. Et c'est vrai que l'église locale, c'est l'endroit où on trouve la protection et on trouve la paix. Il y a un beau verset dans le livre de Jérémie que je voudrais vous lire et qui est au chapitre 33. Vous me direz, c'est pas l'église, mais ça fait rien. Comme Pierre-Henri nous a dit qu'il y avait des bergers dans l'église, alors on peut bien prendre des exemples de l'Ancien Testament. Et il y a ce beau verset dans Jérémie 33 et au verset 12. Ainsi dit l'Éternel des armées dans ce lieu qui est désert, où il n'y a ni homme ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura encore une demeure de bergers qui y feront reposer leur menu bétail. Une maison de bergers. Vous savez comment Dieu est en colère contre les mauvais bergers? Dans Ézéchiel 34, il est en colère, franchement en colère. Malheur à vous, mauvais bergers! Vous faites porter des charges que ces brebis que mon peuple ne peut pas porter. Et vous êtes satisfaits. Voyez, ces mauvais bergers. Ceux qui abandonnent le troupeau au moment où il en a le plus besoin. Alors il est très fâché. Par contre, il nous donne l'exemple, voilà, du Seigneur Jésus lui-même, eh bien, qui va s'occuper de ces brebis. Alors, est-ce que nous avons ce soin pour nos frères et sœurs? Porter les charges les uns des autres. Et je vous raconte cette petite histoire que j'ai déjà racontée quelque part. Il y avait une fois un grand frère qui portait son petit frère et c'était une marche longue, il y avait une marche très longue. Alors il avait son petit frère dans les bras et puis quelqu'un qui suivait cette marche au bout d'un moment lui dit « Mais mon ami, c'est pas trop lourd ce fardeau ?» Moi il lui répond « C'est pas un fardeau, c'est mon petit frère. » Est-ce que mon frère, ma sœur, c'est un objet lourd, pesant? Ah oui, c'est quelquefois lourd, c'est vrai. Mais est-ce que c'est quelqu'un que j'aime? Et c'est ça qui fera que j'aurai envie de porter la charge de mon frère ou de ma sœur. Ensuite, un hôpital. Un hôpital pour recevoir des soins. Oui, parce que tant de blessés du chemin, de laissés pour compte, même parmi nous. Franchement, oui. Des personnes qui se sentent mal comprises, des fatiguées, des découragées, il y en a tellement. Et peut-être que c'est important pour nous que nous puissions être vraiment un peu à l'écoute de nos frères et sœurs. Je crois que c'est bien essentiel. Et vous savez, quand le Seigneur, justement, en image dans Ézéchiel 34, il est dit « Et la blessée, je la banderai ». Mais souvenez-vous, dans cette parabole du bon samaritain, il est dit, et ça c'est difficile, « Et toi, fais de même ». Donc c'est vrai que le Seigneur, il prend soin de chacun de nous, mais le « Et toi, fais de même ». Alors, comment faire? C'est sûr qu'on peut prier pour la guérison physique, morale de mon frère, de ma sœur. Comment apporter des soins? Peut-être tout simplement en allant vers lui et en lui prenant la main. Un sourire, c'est pas grand-chose. Ça coûte peut-être rien, mais ça peut faire très, très chaud dans le cœur. Quelqu'un qui est découragé, il ne se souvient peut-être plus qu'il est aimé, aimé de Dieu. C'est son enfant. Alors lui rappeler cela. Lui rappeler que Dieu est pour lui, jamais contre. Dieu est pour lui, jamais contre lui. Que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, s'il éprouve, c'est pour faire du bien à la fin. On peut peut-être le dire, ou peut-être, en tout cas, passer un petit moment avec celui qui souffre et pouvoir l'aider à avoir cette foi qui se raccroche à ce Dieu puissant, à ce Dieu qui peut, à ce Dieu qui veut, qui est fidèle et puissant et qui aime en tout temps. Voilà. Ce travail pastoral. Un deuxième sujet de prière, si vous ne savez pas, pour la prochaine réunion de prière. Priez pour qu'il y ait des pasteurs et qu'il y ait beaucoup d'amour entre les frères et les sœurs. Sixièmement, c'est rayonner. Alors, rayonner, c'est d'abord peut-être vis-à-vis des anges. Et c'est ainsi que, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, il est parlé justement de l'Église, de ce mystère caché dès les siècles. L'Église, Christ et les croyants unis ensemble. Le Christ, c'est l'Église et le Seigneur Jésus et le Christ ensemble, liés ensemble. C'est indissociable, indissoluble. Eh bien, ce mystère caché au verset 9, « En Dieu qui a créé toutes choses, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés, aux autorités, dans les lieux célestes, par l'Assemblée, selon le propos éternel. » La sagesse de Dieu. Les anges découvrent ce que Dieu a fait. Voilà des personnes qui, là, allaient et venaient, et les voilà rassemblées pour être une famille et qui adorent ce Dieu qui les a rassemblées. C'est aussi pour montrer l'ordre selon Dieu. Et c'est vrai que si en Christ, hommes et femmes, nous sommes pareils en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. N'empêche que sur la terre, il y a encore une différence. L'homme et la femme sont différents et chacun a sa place et sa fonction. Et ça aussi, les anges regardent. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et puis, il y a vis-à-vis des hommes. Alors, j'ai marqué « venez » et puis après « allez ». L'évangélisation, mais c'est l'évangélisation dans son sens large, rayonner. Et c'est vrai que dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 14, voilà une église qui fonctionne. Chaque membre est inondé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit vit et la personne vit de Christ. Les personnes passent, entrent, l'assemblée tout entière s'est réunie, et que nous lisons. Et nous voyons que la personne qui entend, au verset 24, et si tous prophétisent, et qu'il y a quelqu'un crédule ou quelque homme simple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont rendus manifestes, et ainsi tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi vous. Rayonnement. Donc, comment sommes-nous lorsque nous sommes réunis autour du Seigneur Jésus dans la présence de Dieu et quelqu'un qui entre? Qu'est-ce qu'il remarque? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Venez. Alors, moi je vous dirais, je ne sais pas comment vous êtes, il y a une période où on n'osait pas trop faire venir les gens dans nos rassemblements parce qu'on avait peut-être un peu honte de ceci, cela, nos cultes sont un peu tristes, je ne sais pas, on a eu plein d'idées comme ça. Peut-être pas vous, moi j'ai eu. Et puis, j'ai dit non. Là, ici, quand on est tout simple, on n'essaye pas de jouer un rôle, on ne joue pas la réunion. Ah, si vous jouez la réunion, oh, ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien si vous jouez la réunion. Si vous venez là vraiment avec un cœur pour Dieu, ben, c'est pas la peine de chercher à faire autre chose qu'à être authentique. Soyez vous-même. Et ce moment-là, si quelqu'un rentre, eh ben, il peut rentrer. Invitez-le. Eh ben, si vous êtes authentique, ben, il verra. Et puis, il choisira. Après, il y a aller. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, il est parlé aussi d'aller annoncer les vertus de celui, etc., du Seigneur Jésus. Les vertus. Allez, annoncez ça. Nous sommes une nation sainte, mise à part. Nous sommes un peuple élu. Allez, racontez. Mais racontez surtout par votre vie. D'abord par votre vie. Si votre vie n'est pas en règle, ça ne sert à rien ce que vous racontez. Si, parce que Dieu, de toute façon, il utilise tout. Tout parce qu'il veut se glorifier. Je dis pas ça pour pas faire le tri dans nos vies. Mais heureusement que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, parfaits dans le sens pratique du terme, pour qu'on puisse commencer à parler du Seigneur autour de nous. Parce qu'autrement, la barre serait tellement haute, ce serait impossible. Mais n'empêche, veillons à nos vies pour pas qu'il y ait de discordance entre ma vie et ce que je proclame. Alors, authentique. Et c'est pour ça que j'ai ici marqué plusieurs choses. Une lampe, la colonne et le soutien de la vérité, et puis une lettre. C'est sûr que la lampe, au milieu de la nuit, c'est l'Apocalypse, chapitre 2. Les sept lampes, et puis c'était vraiment des églises locales. Alors, nous sommes une lampe. Vous savez, attention, aujourd'hui, on aime beaucoup nous souvenir du passé. Oui, dans les villes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a un beau monument, on met des éclairages pour la nuit. Alors, on éclaire le monument pour dire qu'est-ce qu'il est beau. Ah, vous savez, nous avions des frères autrefois, le mouvement des frères, ceci, cela, les projecteurs sur ce beau bâtiment, mais il n'y a que des pierres mortes dedans. Non, la lumière, elle ne vient pas du projecteur qui dit « là, là, l'église autrefois ». Non, c'est La lumière vient de dedans, puisque c'est une lumière qui est la lumière de la vie de Dieu, de Christ qui luit dans ma vie et dans la vie des frères et sœurs. Et l'église locale, la lampe, est dedans. Ce n'est pas un éclairage sur notre passé, attention. Mais justement, et j'ai noté, je vous lis juste une petite phrase, la réalité de la présence de Christ, vécue au milieu des siens, constitue l'authenticité de l'Église, de même que la force vitale de la sève constitue la santé ou la vie de l'arbre, sans quoi il n'est qu'un morceau de bois mort. Ça, c'est essentiel. Ensuite, la colonne est le soutien de la vérité. La colonne, pour que ce soit vu, qui soutient la vérité. Alors vous allez dire, ça y est, ça c'est la doctrine, on apprend bien la doctrine, on la raconte, et comme ça y est, la mission de l'Église est bonne. Mais non, c'est pas ça. La vérité, c'est encore une personne. La vérité est en Jésus-Christ. Vous allez trouver ça en Jésus, vous trouvez ça dans l'Épître aux Éphésiens. C'est encore important de dire et de redire que l'enseignement qui est donné, ce n'est pas simplement des dogmes, des doctrines, mais c'est quelque chose qui met en évidence et qui donne un enseignement sur la personne du Seigneur Jésus, sur son œuvre, sur ce qu'il est. Et c'est ça l'essentiel. C'est important de nous en souvenir. La colonne est le soutien de la vérité. Et puis, troisièmement, la lettre, lui est connue de tous les hommes. Eh bien, ce n'est pas nous qui lisons la lettre. Il y a des personnes qui lisent la lettre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que la lettre est claire? En regardant vivre l'église locale, les croyants, quelquefois quand ils sont rassemblés, lorsqu'ils sont aussi au milieu de leur travail, et lorsqu'ils sont en groupe, etc., eh bien, est-ce que l'on discerne la personne du Seigneur Jésus? Est-ce que Dieu est vu? Comment voulez-vous, si des gens ne lisent pas la Bible, ne vont pas dans les églises, comment voulez-vous que Dieu soit vu sur la terre? Alors, il est vu dans les saisons, il est vu dans la création, mais il est vu dans la vie des croyants. Et lorsqu'ils sont ensemble. Alors maintenant, donc évidemment, dans la pratique, c'est l'évangélisation, c'est vous avez tout un tas d'idées, vous les avez, et les jeunes, vous avez des idées, et c'est bien continuer à parler de celui qui a changé votre vie. Ensuite, transmettre. C'est le sixièmement, c'est transmettre. Vous savez, dans une église locale, il y a en général 3 ou 4 générations. Ces générations se côtoient pendant une période. La génération ancienne s'éteint et une nouvelle génération se lève. Et ça dure depuis la Pentecôte. Et vous voyez, il y a des occasions de travailler aussi ensemble. Mais c'est ainsi essentiel de penser que chaque génération est utile à l'autre. Les plus jeunes sont utiles aux plus âgés comme les plus âgés sont utiles aux plus jeunes. Et ça, c'est essentiel. Et ça, il y a donc aussi un défi. C'est de pouvoir transmettre à la génération qui suit ce que nous avons reçu de la génération qui vient. Mais encore une fois, si c'est simplement un ensemble de dogmes que vous transmettez, c'est la mort assurée. Ça ne peut pas fonctionner. Alors qu'est-ce que nous pouvons transmettre? Je voudrais vous raconter encore une histoire que j'ai déjà racontée. Il y avait des pasteurs qui discutaient entre eux sur les traductions de la Bible. Et il se disait, moi j'aime bien celle-ci pour telle ou telle raison, et moi je préfère celle-là pour telle ou telle raison. Et puis, il y en a un qui dit, eh bien moi écoutez, celle que je préfère, c'est la traduction de ma mère. Pourquoi elle a traduit la Bible? Non. Mais je vois la Bible vivre dans ma mère chaque jour. Et voyez, c'est ça, je crois, la vraie transmission du trésor que nous avons reçu. C'est cette vie de Jésus qui me transforme. Et que j'ai à transmettre à mon enfant, à ma fille, à mon fils. À mon enfant peut-être spirituel, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'enfant physiquement. Alors transmettre ça. Et ça, c'est la vie qui est transmise. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ce que nous avons à faire, absolument. Peut-être que j'ai quelques versets à vous lire dans le psaume 78. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci, au verset 3... Alors, les paroles que nous avons entendues de nos pères nous ont raconté des paroles, nous ne les scellerons pas à leurs fils, nous raconterons à la génération à venir les louanges de l'Éternel et sa force et ses merveilles qu'il a faites. Au verset 5, la loi qu'il a commandée à nos pères pour qu'ils les fissent connaître à leurs fils, afin que la génération à venir, les fils qui naîtraient, les connussent et qu'ils se levassent et qu'ils annonçassent à leurs fils et qu'ils missent leur confiance en Dieu et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, etc. Voilà, raconter. On ne va pas cacher ça. On va raconter ça à nos fils. C'est essentiel de transmettre, que l'Église transmette à la génération qui suit. Il y a Moïse qui disait que Dieu avait été de génération en génération notre refuge. C'est dans le psaume 90. Est-ce que nous pouvons dire cela à nos enfants? Est-ce que nous pensons aussi que quand Paul parlait à Timothée, son enfant, il voulait lui transmettre vraiment ce qu'est la personne du Seigneur Jésus, pour qu'il lui-même il le transmette à d'autres, qui seront capables de transmettre encore à d'autres. La transmission, et c'est tellement essentiel. Et quand il voit les chrétiens d'Éphèse pour la dernière fois, alors il dit des choses tellement essentielles, donc dans le livre des Actes au chapitre 20 et au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Mais moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas. Alors je vous recommande à la parole de la grâce qui est la puissance d'édifier. Vraiment, je... Alors comment concrètement? Dans nos maisons d'abord. Vous n'êtes pas obligé de faire une lecture biblique d'une heure tous les jours. Entre 6 et 7 le matin, non, vous n'êtes pas obligé. Mais que vraiment, cette vie de Christ, eh bien, vous puissiez le communiquer. Vous avez tout un tas d'idées pour le faire, mais prenez le temps. Il y a des voleurs de temps. La télé, c'est pas que mal, la télé, mais franchement, le temps. Comment vous faites? Franchement, comment vous faites, après une journée de travail, avoir le temps de passer du temps à la télé? L'ordinateur. Internet, quelle catastrophe. C'est formidable, mais quelle catastrophe. Que de temps perdu. Vraiment, nous avons besoin de nous mettre devant Dieu et de lui dire, Seigneur, maintenant, je voudrais vraiment avoir une vie toute pour toi, sachant où sont les priorités, retrouver les priorités pour pouvoir vivre vraiment de toi, pour pouvoir transmettre la vie à ceux qui me voient marcher. J'ai mis course de relais, pourquoi? Parce que j'ai été frappé. Quand il y a un relais, alors il y en a un qui court. Et à un moment donné, l'autre se met à courir à côté, et puis il passe le relais. Mais il y a toute une période, j'avais pas fait attention, toute une période où il marche à côté pour que le relais soit bien passé. Est-ce que la génération plus âgée que la plus jeune prend du temps avec la plus jeune génération? Faire des visites, par exemple, avec les plus jeunes, parler, voilà, passer du temps, le passage du relais, c'est tellement important. Vraiment. Et puis aider un jeune dans la prière. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais vous savez, pour apprendre à prier en public, commençons à la maison. Quand vous êtes réunis pour lire la Bible, même si c'est un petit peu, mettez-vous ensemble à genoux. Et que les enfants prient. Au début, c'est bizarre, mais ça fait rien. Et petit à petit, vous allez découvrir leur conversion par la prière parce qu'elle sera modifiée. Ça, c'est extraordinaire de pouvoir voir le développement spirituel de son enfant dans la prière à la maison. Et s'il apprend à prier ouvertement, avec sa bouche, avec des mots, eh bien, ce sera plus facile pour lui de prier en groupe avec ses copains et puis prier après dans l'église. Parce qu'il y a un verset aussi qui dit dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 15, voilà, il y en a qui sont morts, vous êtes baptisés pour les morts ou à la place des morts. Ça veut dire qu'il y en a qui meurent dans le combat. Et il y en a qui prennent le relais, et l'armée, elle est toujours en mouvement, et toujours d'attaque contre l'ennemi. Et puis terminer par le dernier défi, attendre le Seigneur. Mais quand? Mais maintenant. Et ça change tout. Franchement, ça change tout. Si vraiment on a cette pensée du retour du Seigneur dans notre vie de tous les jours, y compris la vie professionnelle, ça change tout. Alors vraiment, que le Seigneur nous accorde cette joie de pouvoir... relever ces différents défis, ces 7 de défis. L'Église locale, c'est une volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour qu'il soit vu sur la terre. Eh bien, voilà, nous pouvons vivre localement, là où nous sommes, cette vie de Dieu, ensemble, c'est-à-dire l'Église de Dieu.